En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL. Les odeurs de transpiration sont surtout causées par les bactéries sous vos aisselles. C'est pourquoi nous avons créé le nouveau...
Depuis l'Antiquité, il y a des odeurs que nous n'aimons pas, c'est des odeurs putrides, parce que ça rappelle aux humains leur condition de mortels voués à la putritude.
La curiosité est un vilain défaut.
Une protection contre les bactéries et les mauvaises odeurs.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Qu'est-ce qui est propre? Qu'est-ce qui est sale? Qu'est-ce qui sent bon? Qu'est-ce qui sent mauvais pour
dans
répondre
studio?
À...
Non, on n'est pas là.
En général. On va commencer à... On va éviter les questions personnelles pendant ce thème, si vous le voulez bien, Sidonie. En tout cas, pour répondre à ces questions toutes simples, on peut faire appel à la science, à l'histoire, à la sociologie et surtout à un magazine qui s'y connaît, le magazine Né. Delphine de Swaard, experte du parfum, enseignante à l'université de la Sorbonne Nouvelle. Vous publiez l'un des articles du magazine Né, consacré au propre et au sale. Le titre de votre article, hein, je cite, c'est « Je pue, donc je suis ». Pourtant, mais oui, pourtant, on ne sent pas notre propre odeur. Tiens, on commence par ça. Pourquoi on ne sent pas son odeur?
En fait, le système de l'olfaction, c'est un système qui est fait pour détecter. C'est un système d'alarme. Et en fait, si on était en permanence en train de se sentir, en train de nous sentir, ça saturerait nos récepteurs et on ne pourrait plus prêter attention aux odeurs qui arriveraient potentiellement source de danger. Donc, en fait, on fait une mise au neutre de notre propre odeur, mais aussi de notre habitat, ce qui fait que souvent, on oublie l'odeur de chez nous. Et quand on part...
C'est vrai pour le travail aussi. Il y a des métiers qui sont confrontés à des odeurs très, très dures. Les métiers médicaux, par exemple, ils oublient, ils se rendent plus compte qu'ils ont ces odeurs autour d'eux?
Non, pas tout à fait. En fait, un anthropologue qui s'appelle Joël Kando, qui a été interviewé pour le magazine Né par Léonore de Bonneval, montre très bien que ces professionnels sont encore choqués par cette odeur, puisque d'abord, selon les morts, les cadavres ne sentent pas la même chose. C'est une des odeurs les plus insoutenables. Composé d'azote, de soufre, de putrécine, de cadavérine, qui sont intolérables parce qu'elles témoignent de notre devenir aussi. Et elles sont toxiques, hein, des odeurs azotées, soufrées, c'est toxique pour le corps humain. Donc, ces professionnels, même s'ils sont habitués et tous les jours ils sentent des cadavres, continuent de ne pas accepter cette odeur. Et le professeur Kando raconte qu'il avait interviewé un thanatopracteur qui, tous les matins, avant de travailler, vomissait. Et ensuite se remettait au travail. Donc on ne peut pas s'habituer à cette odeur. Il y a même des techniques, hein, on met sous le nez des odeurs.
De l'eucalyptus. Il faut rappeler ce que c'est un thanatopracteur. C'est quelqu'un qui embaume les corps des personnes décédées. Vous nous avez donné la composition de cette odeur de mort très précise. Il y a de l'azote, il y a du soufre. Est-ce que ces ingrédients-là, on les trouve dans toutes les mauvaises odeurs?
Oui, les atomes de soufre et d'azote se retrouvent dans les mauvaises odeurs, sont les marqueurs de mauvaises odeurs. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise odeur? Parce qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise odeur en tant que telle. A priori, il y a des odorants qu'on perçoit et que le cerveau transforme en odeur. Ouais. Et ensuite, la culture, notre éducation va faire qu'on va classer des odeurs en bonnes ou mauvaises. Ce qu'on appelle classiquement une mauvaise odeur, c'est une odeur de corps qui s'oublie. En fait, on dégage, on sécrète. Mmh. Et sur cette odeur, sur ces sécrétions, il va y avoir des bactéries qui vont dégrader la sueur, par exemple, qui a priori est inodore. Hein, la sueur, c'est de l'eau, des sels minéraux un peu durés. Et c'est les bactéries qui vont transformer ça en une odeur nauséabonde.
Mais arrivent au bout de combien de temps ces bactéries?
Elles sont présentes et surtout elles sont favorisées par les milieux chauds, donc les aisselles,
le petit pullover.
Voilà.
Et alors ce qui est intéressant, et c'est le thème du dossier du magazine Né, la revue olfactive Né, c'est qu'on associe la propreté et la saleté aux odeurs. Et alors vous dressez une liste de ces choses qui sentent mauvais. Ça commence par les cheveux sales. Alors, on y trouve quoi comme composant malodorant dans les cheveux sales?
Alors, il y a pas mal d'acides gras. Ouais. Dans les cheveux sales, on a de l'indole, qui a une odeur fécale. Ce qui est drôle, c'est qu'on le retrouve aussi dans une fleur qui pourtant sent bon, le jasmin.
Ah oui.
Oui.
C'est pas le même dosage, quoi.
C'est exactement, voilà, c'est ça. Ça dépend des dosages. Il y a aussi de l'acide butyrique qui sent le fromage rance. Mmh. Et bon, dans la parfumerie, on utilise aussi ces molécules, et comme vous le disiez, selon les dosages. Et il y a aussi des ingrédients qui sentent le cheveu sale, comme le costus, qu'on utilise en parfumerie. Donc la frontière entre les bonnes et les mauvaises odeurs, elle est très ténue.
Ouais, c'est drôle ça. Je vais faire tous les tupus de la liste. Hein. Donc il y a les cheveux sales, il y a la sueur, les excréments, les flatulences, les pieds, l'urine et la mauvaise haleine.
On est bien, on n'a rien oublié là.
Voilà, on a tout. On est, ouais. On est évidemment pas tous égaux face aux mauvaises odeurs.
Non.
C'est quoi? C'est de la génétique quand même. Il y a de la chimie là-dedans.
C'est de la. Il y a surtout. On a tous une flore bactérienne qui est unique. Chacun d'entre nous a une flore bactérienne qui fait notre signature.
Avec des millions de bactéries, c'est énorme.
Bah oui, et c'est microscopique, ouais, c'est énorme. Ça vit sur nous, ça vit en symbiose avec nous, et ça dégrade notre sueur. On sait aussi que l'alimentation a une influence sur notre odeur, selon les épices qu'on va manger, le cumin ou l'ail et l'oignon vont parfumer notre haleine.
Mais c'est juste pour l'haleine. Ça peut parfumer la sueur.
Si vous faites un dîner à la mousse d'ail, par exemple, je peux vous dire que la sueur sent l'ail.
Un dîner à la mousse d'ail.
Mais oui, il faut faire des gags avec les copains des fois.
D'accord.
Des trucs. Quand on a des copains cuisiniers, on peut faire des trucs dingues. Par exemple, un week-end de mousse d'ail.
On mange que de la.
Je peux vous dire que le retour en train. Le wagon est vide. Hein.
On a de la place
on
pour
est
s'allonger.
Personne ne vient avec vous.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le propre et le sale, c'est le thème de notre curiosité d'un dossier passionnant du magazine Né. Delphine de Swart, vous signez l'un de ses articles. Des articles de ce dossier, on se posait la question de la recette de la mauvaise haleine. C'est pas qu'on a envie d'en cuisiner régulièrement, évidemment, mais les ingrédients sont assez fleuris.
Oui, alors il y a d'abord tous les composés soufrés issus de la dégradation des aliments, en fait, de ce qui reste dans la bouche. Mais il y a aussi les mêmes ingrédients que dans les cadavres en putréfaction. Il y a ce qu'on appelle la cadavérine et la putrécine, donc comme son nom l'indique. Et il y a aussi un peu de scatol. Donc encore une fois, les noms sont très évocateurs pour cette mauvaise haleine.
Ah oui, c'est assez terrifiant. Donc cadavérine,
oui,
putrécine,
hein.
Scatol, je l'ai noté pour un prochain dîner, on ne sait jamais. Delphine de Swart, il y a plein d'expressions.
Chez vous, hein.
Non, je ne vous ai pas invité, ça tombe bien. Il y a plein d'expressions qui ont rapport avec les odeurs, avec le sale, le propre. Par exemple, quand on dit de quelqu'un, oh, je l'ai dans le nez celui-là.
Ouais. Généralement, on utilise les métaphores olfactives pour dire son dégoût des autres plutôt que son affection. Je ne peux pas le sentir celui-là, je ne peux pas le piffer. Généralement, on dit d'une situation qu'elle sent mauvais parce qu'elle est... Voilà. Ou alors,
mal
ça,
engagé,
sent
oui.
ça sent le sapin aussi. Généralement, oui. C'est mauvais signe.
Mais ça, c'est juste pour les personnes, quand on dit « je ne peux pas le sentir », il y a une histoire de phéromone, on se sent entre nous. Il n'y a pas que le regard.
Oui, c'est l'instinct, mais la question des phéromones, elle est plus controversée parce que si c'est vrai chez les insectes, chez les êtres humains, en revanche, l'organe détecteur des phéromones n'existe plus. Donc c'est à l'état de vestige chez l'être humain. Mais on a quand même des seuils de détection assez performants pour les odeurs. Donc on se sent les uns les autres, même si on ne se sent pas bien les uns les autres. Mmh. Mais on arrive à se sentir et à vivre ensemble malgré tout. Même si l'odorat classe et discrimine.
Alors ça, on va en parler, évidemment, Delphine de Swart. Je voudrais qu'on parle du propre. Le propre qui n'a pas la même odeur selon les régions du monde, c'est ça?
Oui.
Alors par exemple, chez nous, ce serait plutôt quoi en Europe de l'Ouest?
Ben, on est... Le propre, c'est l'héritage d'une tradition. Donc, en Europe de l'Ouest, nous, on est les héritiers de la lavande, qui a la même étymologie que laver. Hein. La lavande, c'est on utilisait les sommités de lavande pour donner une belle odeur au linge. Mais aussi l'eau de Cologne, parce que pendant très longtemps, on évitait les bains, les étuves. Il y a une fermeture des étuves pour des questions de mœurs, parce que c'était assez des lieux de débauche. Hein. Les hommes et les femmes se baignaient ensemble, mais aussi on craignait la maladie transmise par l'eau. Donc pendant longtemps, on ne se baignait pas. Et on utilisait une eau symbolique, cette eau parfumée, cet alcool parfumé, dont on imprégnait un petit mouchoir, une petite toile, pour se décrasser, pour
se laver. Donc on se lavait à l'eau de Cologne, en quelque sorte.
À l'eau de toilette.
Cette
eau de toilette, c'est cette eau parfumée qu'on met sur la petite toile.
Donc ça fait partie des odeurs associées au propre.
Complètement. C'est notre patrimoine olfactif. Donc la Cologne, c'est des aromates, des agrumes pour un bouquet très frais. Mais on a aussi des odeurs encore plus locales, comme par exemple en Allemagne, il y a un gel douche qui est très emblématique, qui s'appelle Badedas, qui a une odeur de sapin. Donc en Allemagne, c'est le propre est associé au sapin.
En tout cas, oui, le propre est associé au végétal, quoi. C'est des fleurs ou des agrumes, c'est ça ?
Bien sûr. Ouais. C'est encore toujours la même question de l'animalité devenir. On n'a pas envie d'un... Parce que les notes animales en parfumerie, c'est civet, castoreum, c'est issu des glandes sexuelles des petits animaux. Et je peux vous dire que ça sent terriblement fort. Donc en petite dose dans un parfum, c'est délicieux, ça laisse un sillage. Mais pour le propre à proprement parler, pardon, on essaye d'évoquer un territoire plus floral, plus agrume.
Alors, odeur végétale, on l'a bien compris, pour associer au propre, mais il y a aussi les odeurs artificielles. Le dihydromyrcénol, par exemple. Alors, je vais être honnête, je ne connaissais pas ce nom avant ce matin, et pourtant, je le sens tous les jours.
Oui.
C'est quoi ?
C'est une molécule de synthèse qui a beau avoir un nom barbare, a une très jolie odeur, citrus, florale, qui a été développée dans les années 70 pour les lessives. Elle était très performante et peu chère, donc c'était une aubaine pour les lessiviers. Et à la fin des années 70, on l'a introduite en parfumerie fine, c'est-à-dire la parfumerie à base alcoolique pour le corps. Et c'est un phénomène qui est généralement inverse, c'est-à-dire que c'est souvent la parfumerie fine qui inspire la lessive, c'est-à-dire on retrouve des odeurs de Chanel numéro 5 dans la laque Elnett, par exemple.
Ah, j'ai jamais fait le rapprochement.
Ouais. C'est drôle, ça.
C'est fou,
ce qu'on appelle le trickle-down. Et donc là, c'est un phénomène de trickle-up, c'est-à-dire que les produits de consommation courante influencent la parfumerie fine. Et donc, il y a eu un premier parfum qui s'appelait Azzaro pour homme, qui contenait du dihydromyrcénol. Après, il y a eu Dracar Noir, puis Cool Water. Ce sont des parfums à structure fougère, c'est-à-dire aromatique, lavande et mousse de chêne, qui sont très forte pour la propreté masculine. C'est les odeurs qu'on aime sentir et qui sentent le propre sur un homme.
Dihydromyrcénol, on a appris ce mot.
Delphine de Swart, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le propre, c'est un marqueur social depuis longtemps ?
Oui.
Il classe et il discrimine, c'est ce que vous avez dit.
Alors, j'avais lu un article sur l'odeur des pauvres dans l'Antiquité. Pour pas se faire détrousser, ils mettaient leur argent dans la bouche, ce qui fait qu'ils avaient une haleine métallique. Donc les pauvres puaient littéralement l'argent, ce qui est paradoxal pendant l'Antiquité. Plus tard, vers le XVIIIe siècle, l'imperméable, le parapluie n'existe pas, donc les classes sociales défavorisées sentent l'humidité, la laine mouillée. Et aujourd'hui encore, on a des distinctions. On se souvient du discours de Jacques Chirac, le discours de Vendôme, le bruit et l'odeur, qui avait beaucoup choqué, donc qui montre que l'odorat discrimine.
Et puis en 2013, au musée d'Orsay, qu'est-ce qui se passe pendant l'expo Van Gogh ?
Alors, il y a un couple qui avait été, un couple et leur enfant qui avaient été escortés par un bénévole de l'association ATD Carmonde, qui voulait visiter l'exposition, et ils ont été sommés de quitter les lieux parce que leur odeur incommoder les autres visiteurs. Donc ça dit que finalement, il est plus facile de constater la pauvreté par les yeux parce qu'on peut détourner le regard, mais en revanche, l'odeur est persistante et elle pénètre et on ne peut pas y échapper.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Avec mes garçons, les toilettes peuvent sentir parfois comme les toilettes publiques.
RTL.
Avant, la mauvaise odeur, je ne faisais que la masquer. Puis, j'ai essayé...
La curiosité est un vilain défaut.
Et ça marche. Ça sent frais et propre jusqu'à qu'il recommence. C'est la magie.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce soir, dans la curiosité, on distingue le propre du sale et on découvre que notre nez joue un rôle central. Pour ça, c'est la journaliste du magazine Nez qui nous raconte comment les réactions chimiques et culturelles expliquent notre bonheur ou notre dégoût face aux odeurs. On va parler de sexualité, tiens, parce que en lisant cette revue olfactive, je découvre, on n'arrête pas le progrès, que l'odeur est devenue un outil de drague. Que propose le site Smell Dating?
Oui, généralement, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on choisit son partenaire principalement par l'odeur. Donc, c'est un filon. Et il y a une expérience qui est encore assez anecdotique qui a été menée par ce site, Smell Dating, qui est un site de rencontre, mais qui base le critère principal comme étant l'odeur.
Mais ça marche comment?
Alors, en fait, en gros, la recette est facile.
Ça m'intéresse.
Vous portez un t-shirt, enfin, on vous envoie un t-shirt, vous le portez pendant 3 jours et 3 nuits, sans déodorant, et ça, la mention est très explicite sur le site.
Ah oui.
Et sans se laver non plus?
Ben oui, a priori.
Aïe.
Et ensuite, vous renvoyez le t-shirt, on le découpe en petits morceaux, là, on l'envoie à des participants, et vous aussi, vous recevez des petits échantillons de t-shirts portés par d'autres.
Dingues.
Et si vous choisissez l'échantillon de quelqu'un qui vous choisit en retour, vous le rencontrez.
Mais ça marche jamais, 3 jours, 3 nuits sans se laver, personne ne rencontre personne.
Je ne sais pas si...
Ah bah, il faut accepter les règles du jeu. Mais sérieusement, est-ce qu'on tombe aussi amoureux de l'odeur de l'autre?
Oui. Oui, oui, bien sûr. On sait même qu'il y a une inversion de l'aversion en amour. Les mauvaises odeurs deviennent parfois des fétiches et l'odeur des selles, l'odeur de fesses, c'est des choses dont on peut tomber amoureux.
Oui,
défauts dont on tombe amoureux,
oui,
et puis au bout d'un moment...
Parce qu'on peut parler de sexualité, quand on fait l'amour, on dégage des odeurs, oui. Et ça fait partie de l'excitation aussi.
Oui, trop propre, on n'est pas programmé pour ça. Hein. On est programmé aussi pour dégager et échanger des fluides.
Alors, propre, ça, on ne pouvait pas dire ça d'Henri IV. Qu'est-ce qu'il disait Henri IV à sa maîtresse Gabrielle d'Estrée?
Alors, il était fou d'elle et il lui écrivait alors qu'il était en déplacement et en campagne, comme Napoléon l'écrira quelques siècles après à Joséphine. « Ne te lave pas, j'arrive et dans 8 jours, je suis là. » Ça dit combien Napoléon ou Henri IV étaient fous des odeurs de ces femmes.
Henri IV qui s'est lavé très peu de fois dans sa vie.
Mais oui, parce qu'à l'époque, on ne se lavait pas en fait.
Pourquoi?
On craignait l'eau puisqu'elle était potentiellement vectrice de maladies. Et elle pouvait affaiblir les humeurs. Donc l'eau, c'était pour les bêtes. C'était pas pour les hommes.
Alors ce qui est intéressant, c'est que le vêtement, à partir du Moyen-Âge, donc on disait que le nez nous sert à distinguer le propre du sale, la vue aussi, à partir du Moyen-Âge, le vêtement joue un rôle là-dedans, et notamment les sous-vêtements. C'est quoi? C'est l'apparition, alors c'est un anachronisme de dire ça, on ne disait pas ce sont des sous-vêtements, mais c'est l'apparition du sous-vêtement au Moyen-Âge, c'est
ça? Oui, du linge de dessous. Oui. En fait, il est d'abord très finement tissé. C'est un petit linge qu'on peut changer. Enfin, c'est encore, on ne sait pas exactement combien de fois le linge était changé, mais il pouvait être changé. Et au fur et à mesure des siècles, il apparaît. Le dessous se montre dessus, d'abord comme un liseré, puis après comme un col, comme des revers, des manches. Et le blanc de ce tissu est signe de propreté. La propreté à cette époque était d'abord visible. Donc, c'est le blanc, la blancheur du linge qui est aussi censée absorber la crasse.
Oui, c'est ça, les médecins pensaient que le linge absorbait la crasse.
Oui. Et donc il fallait en changer.
D'accord.
Il fallait en changer pour à nouveau pouvoir être propre.
Quand est-ce que le propre devient vraiment un business super florissant?
C'est au XXe siècle, en fait, juste après la guerre. Et ça, un autre article du Grand Dossier. Je n'ai pas cité tous les articles, mais...
Du magazine, oui.
Là, c'est toute une équipe qui a fait ce dossier. Et il y a un article de Béatrice Boisserie, justement, qui parle du tour du monde du propre et qui montre qu'en 1946, juste après-guerre, Procter & Gamble lance 2 savons.
Donc c'est les Américains.
Oui. Un pour le corps, un pour le linge. Donc à l'époque, c'est simple. Ça va très vite se compliquer. Il va y avoir de la spécialisation, une offre pléthorique. Mais à l'époque, c'est simple. Et donc, l'industrie des lessiviers, les grandes maisons de composition de parfums, les grandes marques vont apparaître au XXe siècle et toutes les campagnes de santé publique qui vont avec. Parce que c'est bien beau de proposer des produits pour laver, mais encore, il faut encourager à laver. Et il y a par exemple l'anecdote de la marque Listerine qui a forgé le terme halitosis, mauvaise haleine.
Médicale, presque.
Mais, oui, enfin, ça a des airs médicales parce que c'est des racines grecques. Et en fait, avant, bah, on puait de la gueule. Et grâce à l'hystérine, on s'est mis à souffrir d'halitosis. Donc, du coup...
Ah, il y a une solution.
Ben voilà, il y a une solution qui est un bain de bouche proposé. On crée à la fois une maladie, c'est performatif, on crée une maladie et on propose son remède en même temps.
Alors, il y a aussi des odeurs qui sont des odeurs de propre qui sont associées à l'enfance. Je vais faire un test à Sidonie avec une petite carte olfactive qui est proposée dans le magazine Nez. Je ne sais pas si ça va marcher. Alors, fermez les yeux. Mmh. Voilà, je retire le petit scotch et vous sentez.
J'ai un odorat très sensible en plus. La lessive pour bébé, le linge propre.
Ouais, c'est pas loin, ça sent le crâne de bébé. C'est trop mignon.
C'est trop mignon.
Et ben voilà, on termine là-dessus. Merci beaucoup, Delphine de Soir.
Je suis inquiète, ma fille sans passade, doit pas être assez propre.
On a aussi le lait de toilette ou le renvoi de lait.
Le renvoi de lait, je veux bien le faire, le renvoi de lait.
Tiens,
oui,
voilà.
Parce qu'il y a une petite fiche qui est fournie avec
c'est
le numéro 2.
C'est exactement ça, le petit vomito du jeune bébé.
Et donc c'est... Ah oui, c'est mignon ça. Et c'est fourni, vous pensiez être sevré, c'est ce qu'il y a au recto de la carte. En tout cas, c'est fourni avec la revue Nez, la revue olfactive numéro 2. Merci Delphine de Soir.
Merci beaucoup.
C'est fini pour cette première curiosité de l'année. Encore une fois, on vous la souhaite très belle cette année 2016.
Et on se retrouve demain. Ben oui, on prend une année de plus possible.
Vous savez, c'est quand on fait les chèques, on ne s'habitue pas, on continue de les signer.
On n'a pas fait mon chèque d'ailleurs cette année.
Bon, ça, vous pouvez toujours rêver.
On se retrouve demain à 20h. Pour parler d'astrologie et de reggae. Le Coq à l'âne continue sur RTL.
Ça va faire du bien dans un instant. Éric Jean-Jean, 100% live.